VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité ici aux États-Unis. Deuxième jour de la convention du Parti républicain à Cleveland, dans l'Ohio. Donald Trump sera formellement investi aujourd'hui candidat du parti à la présidentielle du 8 novembre. Le magnat de l'immobilier a promis hier soir la victoire aux républicains à cette élection, à l'issue d'une première journée de convention chaotique marquée par la révolte de ses opposants. Mais, fait notable, sa femme Melania, dont le discours constituait le clou de cette première journée de convention, a semblé avoir emprunté des pans entiers à un discours de Michelle Obama, ce qui a provoqué une vive émotion. Les détails avec Idrissa Sedoudia, l'un de nos correspondants à Cleveland.
Surprise à la convention républicaine de Cleveland, Donald Trump, rompant avec la tradition, est venu personnellement lundi soir au site de la convention. C'était pour présenter sa femme, Melania, qui devait prononcer un discours devant les délégués.
The next First Lady of the United States.
Une future première dame d'origine slovène, elle a vanté les mérites de son mari et le mouvement dont il est à la tête et qui a abouti à sa prochaine intronisation en tant que candidat du Parti républicain pour la présidentielle de novembre. Melania Trump a tenté de révéler au public un visage qu'il semble ignorer, celui d'un homme qui est dur quand c'est nécessaire, mais qui sait être tendre, comme peut en témoigner sa famille.
Donald intends to represent all the people.
Selon Melania Trump, son mari est pour tout le monde, chrétien, juif, musulman, africain, américain, asiatique, pauvre, classe moyenne, etc. En conclusion, elle a assuré que son mari est fin prêt pour diriger cette nation.
Donald J. Trump is ready to serve and lead this country as the next president of the United States.
Controverse déjà ici à Cleveland, où d'aucuns ont comparé le discours de Melania Trump à celui qu'avait prononcé en 2008 Michelle Obama en parlant des valeurs de son mari et aussi des valeurs que lui avaient inculquées ses parents, etc. Alors, c'est une affaire à suivre.
We must not be afraid to define our enemy.
Avant que Donald Trump ne bouleverse le programme en se présentant à la convention avant jeudi, la soirée baptisée « Make America Safe Again » restitue à l'Amérique sa sécurité avait été consacrée à des discours axés sur Benghazi et l'immigration illégale. L'ancien maire de New York, Rudolph Giuliani, connu pour ses positions plus que pro-force de l'ordre. Tous ces discours visaient assurément à montrer, vu tous les récents événements tragiques à Paris, à Bruxelles, aux États-Unis et ailleurs, que tout cela était dû à la faiblesse de Barack Obama et d'Hillary Clinton, son ancienne secrétaire d'État, qui ont même peur d'utiliser les mots terroriste, islamiste, extrémiste. Et Clinton a été blâmé aussi pour le chaos qui règne maintenant en Libye et la montée du djihadisme dans ce pays après la chute de Kadhafi. Les discours des parents de victimes d'immigrés clandestins visaient simplement à mettre en exergue les positions de Donald Trump sur le mur qu'il promet de construire à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Idrissa Sedoudia à Cleveland, dans l'Ohio.
Merci Idrissa. Concernant la controverse sur le discours de Melania Trump, Paul Manafort, un proche conseiller de Donald Trump, a démenti catégoriquement ce matin que Mme Trump ait copié un discours de Michelle Obama. C'est absurde de penser que Mme Trump aurait agi de la sorte, vu qu'elle savait que son discours d'hier soir allait être examiné à la loupe, a-t-il déclaré en substance. Parmi les orateurs au programme de la convention ce mardi, le président de la Chambre des représentants du Congrès, le républicain Paul Ryan, et deux des rivaux de Donald Trump dans la campagne des primaires, le gouverneur de New Jersey, Chris Christie, et le docteur Ben Carson.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique maintenant, Cameroun, 11 otages dont le maire de la ville de Lagdo dans le nord du pays ont retrouvé leur liberté après plus d'un an en captivité. Ils avaient été enlevés par des groupes armés centrafricains. Les 11 anciens otages ont été reçus par les autorités camerounaises. Le point avec Moki Edwin Kidzeka, notre correspondant à Yaoundé.
Les maires de l'Agdou, Mama Abakai, se rappellent des mauvais traitements qui leur ont été infligés pendant 16 mois dans les camps du groupe armé centrafricain.
Vous êtes enchaînés deux à deux, vous avez un litre d'eau à partager à deux toute la journée, vous mangez une fois 14 heures. À un certain moment, nous avons perdu l'espoir. Ils nous ont dit qu'ils nous donnaient une date butoir qui était le 31 juillet 2016. Si le gouvernement ne réagissait pas, ils nous finissaient parce qu'ils avaient déjà assez à nous garder.
Deux otages ont été déclarés morts suite à ces mauvais traitements. Un des otages, Daouda Abdoulaye, explique qu'ils ont été arrêtés par un groupe armé qui réclame la libération de la République centrafricaine.
Un groupe de soldats, ils sont du front de FDPC, Front démocratique du peuple centrafricain, guidé par Aboubacar Sidiki.
Le Cameroun dit n'avoir payé aucune rançon pour leur libération. Mais les anciens otages expliquent que le groupe armé réclamait de l'argent avant de les libérer. Moki, Edwin Kinzeka, VOA Afrique, Yaoundé.
En République démocratique du Congo, c'est toujours l'incertitude sur la tenue éventuelle de l'élection présidentielle. Le mandat du président Joseph Kabila va bientôt se terminer. Aucune date n'est retenue pour choisir son successeur. Olivier Kamitatou, président de l'Alliance pour le renouveau du Congo et vice-président du G7, un groupe de 7 partis politiques passés à l'opposition, appelle à des négociations urgentes. On l'écoute.
Ce que nous voulons clairement, c'est éviter la burundisation du Congo. Nous voulons éviter de retomber dans des conflits. Nous voulons éviter la violence. Nous voulons éviter l'instabilité. Et pour cela, nous appelons le président Kabila à se ressaisir, à dire clairement qu'il ne sera pas candidat à un troisième mandat. D'abord qu'il commence par là, qu'il réouvre l'espace politique, qu'il libère les prisonniers politiques, qu'il cesse les poursuites judiciaires contre les opposants, qu'il réouvre les médias privés, qu'il cesse le dédoublement des partis politiques, qu'ils s'investissent réellement maintenant pour des élections et qu'ils sortent par la grande porte.
Olivier Kamitatou, président de l'Alliance pour le renouveau du Congo-Kinshasa et vice-président du G7, un groupe de 7 partis politiques passés à l'opposition. Rwanda, le sommet des chefs d'État africains qui s'est terminé hier à Kigali, s'est prononcé pour l'envoi d'une force régionale de protection au Soudan du Sud avec un mandat plus robuste que celle de la mission onusienne sur place. Les détails avec Morgane Guiriek.
D'après Smaïl Cherghi, commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, l'ONU n'a pas le mandat pour imposer la paix et les troupes africaines sont prêtes à s'engager dans des situations très difficiles. L'Éthiopie, le Kenya et le Rwanda sont prêts à fournir des troupes, mais le feu vert du Conseil de sécurité est nécessaire. Il faudra aussi convaincre le président Salva Kiir d'accepter le principe d'une telle force, alors qu'il a récemment affirmé ne pas vouloir un soldat étranger de plus dans son pays. Par ailleurs, la mise en place d'un embargo sur les armes n'a pas abouti. L'Ouganda, qui entretient des relations très étroites avec M. Salva Kiir, s'y est opposé. La force onusienne, avec quelque 12 000 casques bleus, a été critiquée pour n'avoir pas réussi à endiguer les derniers affrontements à Djouba. En 4 jours de combat, il y a eu au moins 300 morts et des dizaines de milliers de déplacés.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Mali, des hommes armés non identifiés ont attaqué très tôt ce mardi le principal camp militaire de Nampa, la localité du centre du pays. C'est ce qu'a déclaré à l'AFP un élu local, l'information confirmée par un habitant et une source militaire. Nampa se trouve à 514 km de la capitale Bamako. Selon l'élu local, les assaillants ont actuellement le contrôle du camp. Il y aurait des victimes, mais on n'en connaît pas le nombre exact, a souligné cet élu qui dit avoir fui la localité. Les attaques djihadistes ont été longtemps concentrées dans le nord du Mali, mais elles se sont étendues à partir de 2015 vers le centre, puis vers le sud du pays. L'attaque de Nampala n'a pas été revendiquée, mais le Front de libération du Massina FLM, un groupe apparu début 2015 et dirigé par le prédicateur radical malien Amadou Koufa Mpel, est actif dans la région. Le FLM est allié au groupe islamiste en Sardine et tous les deux revendiquent régulièrement des attaques dans le nord et le centre du Mali. Et pour terminer, le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a dénoncé hier les retards dans les procès d'anciens dignitaires accusés de corruption. Le plus gros scandale éclabousse l'armée. Plus de 2 milliards de dollars destinés à la lutte contre Boko Haram ont été détournés et l'ancien conseiller à la sécurité nationale, Sambo Dasuki, est accusé d'avoir orchestré des contrats fantômes avec des firmes d'armement. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.